Le masque et la plume. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue en public au studio Charles Trenet de la Maison de Radio France pour un masque et la plume consacré ce soir à l'actualité du cinéma avec les nageurs synchronisés de la critique. J'ai nommé notre Esther Williams du masque et la plume, Daniel Eman de Bande à part, Nicolas Chaler de l'Obs, Michel Simon qui est plutôt nage papillon hein, de Positif et avec Eric Neuhoff du Figaro. Eric qui publie Les Polaroïdes aux éditions du Rocher qui est un recueil de nouvelles voyageuses. Ça va de Cadaqués à Lisbonne, de la Grèce à l'Irlande où on croise notamment Jean Seberg, Patrick Devers, Jackie Kennedy, Salinger et où on retrouve surtout Neuhoff beaucoup plus tendre et mélancolique qu'au masque et la plume. Dans le courrier de la semaine, eh bien, je pressentais, je l'avais dit d'ailleurs, que le traitement sévère infligé à Capharnaüm de Nadine Labaki provoquerait des colères d'auditeurs. Je ne pouvais pas imaginer ce flot ininterrompu depuis la diffusion de l'émission et évidemment exclusivement courroucé par les critiques. Daniel Le de Lyon, votre critique unanime de Capharnaüm m'a horrifié. Le film de Nadine Labaki est magnifique et tout le contraire du larmoyant Arnaud Morange de Blonville sur Mer. Que vous arrive-t-il pour dénier à Capharnaüm son statut de film admirable? Vous ne voulez pas voir la réalité des catastrophes, ni surtout en pleurer du goudron et des plumes. Hélène Wilson de Genève, mais quel acharnement de votre part. Comment êtes-vous passé à côté de ce film à la fois réaliste et magnifique? Votre réaction est incompréhensible. Oui, ce film m'a bouleversé. Joss Gaillard, n'utilisez pas, s'il vous plaît, ce terme de misérabilisme. C'est un très beau film. Alice, vous vous arrêtez à la forme et vous passez sous silence les sujets essentiels abordés dans ce film, les sans-papiers au Liban, la situation des migrantes éthiopiennes et des migrants syriens. Ou encore Carole qui nous dit « Ce film évoque la place de la femme et son combat quotidien dans un monde dirigé par des hommes. Je ne suis pas sûr que vos critiques du masque, sûrement élèves dans un petit monde confortable, soient à la hauteur de ce type de prise de position. » Pourquoi tu opines du bonnet, Daniel ?
Parce que je suis profondément d'accord avec les auditeurs, parce que je trouve que mes copains du masque ont été d'une férocité très étrange. Et je trouve que je ne pouvais pas attendre que ce film soit à ce point-là clivant, parce que, bon, j'ai rencontré Nadine Labaki, je l'ai prévenue d'ailleurs, je lui ai dit « ne t'inquiète pas, ça va être terrible ». Et elle s'y attendait pas du tout.
Eh bien, je continue un peu, il y a trop de lettres pour que je lise tout, bien sûr. Agnès de Lyon, « Capharnaüm est un récit initiatique dans la veine de Pinocchio et au cinéma de Billy Elliot, de va-vie et devient un film qui touche à l'âme ». Ou encore Rita, la faille est grande entre les critiques et la réalité racontée par le film. Il suffit de se rendre dans les pays pauvres pour voir les enfants dans la rue qui font la manche. Ou Flora, qui nous dit que Capharnaüm ne dit pas que quand on est pauvre, on ne devrait pas faire d'enfants, qui était un des débats du Masque et la Plume. Capharnaüm est un film qui dit qu'aucun être humain, enfant ou adulte, ne devrait connaître une telle misère. Ou encore Mireille Fab, pour qui le film montre le drame de tous ces enfants qui subissent le déchirement et les mauvaises conditions de vie, de la migration, de la guerre et de la violence.
Mais il faut dire que ce film très moyen a failli avoir la Palme d'Or, donc le jury était d'accord avec les auditeurs.
Oui, oui. Bon, ça ira comme ça. Oui.
Sachez, ajoute Guylaine, que les enfants que nous recevons dans les centres d'accueil, donc ça c'est en France, nous disent parfois qu'ils auraient préféré ne pas naître. Enfin, Yael Betag juge que faire de l'intellectualisme avec ce film, ce n'est pas adéquat. Il remplit la fonction que j'ai assignée au cinéma, vivre l'émotion, être bouleversé. Et elle cite cette auditrice, une phrase du Talmud, celui qui sauve une vie, sauve l'humanité entière. Courrier unanime, encore une fois, c'est une petite partie de ce que je reçois depuis.
Et j'ai d'excellentes nouvelles, les petits garçons, à vous donner. Il est en Norvège. Mais
ça, on l'avait dit d'ailleurs. Ça, on l'a dit pendant l'émission d'ailleurs.
Enfin, j'essaye de faire quelque chose.
Enfin, beaucoup de messages. Mais je pense que ça, on avait tout dit à l'époque. Beaucoup, beaucoup de messages aussi pour te reprocher, Michel, d'avoir parlé d'autisme à propos de Gaspard Noé. C'est vrai que je t'avais relevé parce que à ce moment-là. Et voilà, ben, Rémi Sabot, d'Orléans, l'autisme regroupe des troubles bien trop importants et graves pour que l'on use de ce mot comme un adjectif inconséquent. Ce que m'écrivent aussi Odile Roire. Perlou, Suzanne Canessa et beaucoup d'autres, et même d'Écosse, comme Emery qui nous dit « Mon fils de 4 ans est autiste et je vous assure qu'il n'y a vraiment pas de rapport entre ce qu'il vit et la façon dont Gaspard Noé traite son film. » Voilà.
Bon, je regrette d'avoir employé ce mot. Je pense qu'il y a tout de même un danger qui pointe, c'est que pratiquement on ne pourra plus du tout employer les mots, même au sens figuré. J'ai jamais dit que Gaspard Noé était un autiste au sens médical. C'est comme on parle de masochisme, on parle de paranoïa. À chaque fois, il faut plus utiliser ces termes. Il faut plus utiliser ces termes, même si c'est une image.
On va arrêter là parce que comparer dans l'autisme au masochisme, ça m'embête un peu.
Dans la mesure où les gens protestent, je regrette de l'avoir employé, mais on va vers un moralement correct qui fait qu'on ne pourra plus employer pratiquement aucun mot. Parce que ça deviendra insultant.
Eh bien, moi, je continuerai à veiller à ce qu'on n'emploie pas certains mots, surtout pour les appliquer à des cinéastes comme Gaspard Noé. Allez, on plonge dans le grand bain. Le premier film en solo, qui a fait un démarrage foudroyant, de l'acteur Gilles Lellouche, avec entre autres Virginie Efira, Leïla Bekti, Mathieu Amalric, Benoît Poulvord, Guillaume Canet, Philippe Catherine, formidable Catherine, Jean-Hugues Anglade, un film qui est arrivé en sélection officielle à Cannes, il faut le dire, sous les risées. On se demandait pourquoi pas dans ce cas-là M. Pokora à l'Opéra Garnier et qui est reparti sous les applaudissements. Dans ce full monty à la française, cette éclopée de la vie, bedonnant et velu, un peu comme Eric Nohoff, forme une équipe de natation synchronisée et prétendent concourir à des championnats mondiaux en Norvège. Ça, c'est la fin du film. Delphine, c'est Virginie Efira, qui est une ancienne gloire des bassins qui se noie dans l'alcool. Amanda, c'est Leïla Bekti, donne ses ordres depuis son fauteuil roulant et ça va à la schlag. Hein. Elles sont chargées de transformer nos pieds nickelés, justement, Daniel, en Esther Williams pour Bal des sirènes. Notamment Mathieu Amalric, qui lui est shooté au Xanax. Poulvord, qui est vendeur de piscine en faillite. Canet, totalement explosif. On a peur. Jean-Hugues Anglade, rocker raté, employé dans une cantine scolaire, ou encore, je le disais, l'hallucinant Philippe Catherine, qui est affecté au rangement des bouées, avec cette phrase de Virginie Efira que j'aime beaucoup, qui lit beaucoup Rilke, et qui dit à ses pieds nickelés, accepte la femme qui est en toi. Eric.
Il n'y a pas que des bouées qui flottent sur l'eau, là. Il y en a aussi autour du corps des acteurs, parce qu'ils n'ont pas eu peur du tout de se montrer tels qu'ils étaient, là, tous les grands séducteurs du cinéma français. Et je ne sais pas ce qui est arrivé à Gilles Lellouche, c'est peut-être d'avoir tourné dans Plongée avec Mélanie Laurent. Lui, il a été malin, il ne s'est pas mis devant la caméra, là. Il ne voulait pas montrer sa petite bedaine, il a laissé les autres. Mais alors, le boulot qu'il fait derrière la caméra, c'est une très grande surprise, ça.
C'est une très grande surprise.
Ah oui, non, mais le film est à hurler de rire, touchant, très beau. Et avec un casting et des acteurs qui n'ont jamais été aussi bons que là-dedans. Là. Leïla Bekti, elle est sidérante là dans son fauteuil roulant en train de hurler comme ouais. Leni Riefenstahl. C'est quelque chose... Et en plus, ils ne méprisent pas du tout ces personnages. Il n'y a pas de second rôle, ils existent tous. Ils ont des destins cabossés, des vies un peu misérables. C'est la médiocrité trop compliquée pour nous, là, comme disait Bernanos. Et là, ce sont des personnages de Simenon rigolo ou, si ça pouvait exister, d'Emmanuel Boff comique. Hein. Il y a un tel hiatus entre les rires qu'ils déclenchent et puis leur quotidien. Et le film donne une énergie. Et je ne sais pas là, ce qui se passe en ce moment.
On en sort de...
Ah, mais on en sort galvanisé.
Absolument.
En se disant,
c'est euphorisant.
Comme quoi, les a priori, les préjugés, ce n'est pas toujours utile. Et là, Gilles Lellouche, on lui enlève...
Et je vous rappelle qu'il était en compétition.
Un E, un L, et il devient un cinéaste.
Officiel, hein,
oui, oui.
À Cannes.
Il aurait dû même être en compétition.
Oui, mais je pense Michel. Qu'il aurait dû être en compétition par rapport à des films français catastrophiques.
Je sens que tu vas nous...
Non, mais c'est vrai. On le sait très bien qu'il y a eu des
trous
noirs.
Tu penses à Couteau dans le cœur, tu penses...
Oui, le Couteau dans le cœur, Les Filles du Soleil. Mais la comédie a toujours été soupçonnée. Je crois que la dernière comédie qui a eu une Palme d'Or, c'est MASH. En 1970, ça fait quand même 48 ans qu'il n'y a pas eu de comédie primée, palmée. On a souvent dit au Masque et la Plume, et moi le premier, que la comédie en France est sacrifiée au point de vue artistique. C'est-à-dire que les comédies en France, c'est pas bien cadré, la photo n'est pas très belle, etc. Ça repose entièrement sur le dialogue et les comédiens. Et là, au contraire, on a un film qui est visuellement extrêmement inventif. C'est-à-dire Gilles Lellouche fait vraiment du cinéma, c'est pas simplement... Et puis aussi, c'est bien sûr, c'est un feel-good movie. Moi, je le trouve supérieur à Full Monty. Visconti. Du point de vue cinématographique, c'est supérieur. Mais à une époque où le jeunisme est triomphant, où on fait l'éloge justement là, c'est des cadras, c'est des quinquas qui sont les vedettes du film. À une époque où tout le monde défend son morceau de terrain, c'est un film sur l'entraide, sur chacun, alors que tout est pour chacun pour soi. Ici, au contraire, on aide chacun à remonter à la surface, si on peut reprendre la métaphore du film. Donc c'est un film qui m'a énormément plu
et très réussi. On peut pas raconter la fin, mais on peut dire que c'est assez osé de vraiment de plonger dans une fin qu'on n'osait pas aussi belle, quoi. Daniel.
Oui, on l'attend, cette fin. On l'attend. Non, mais c'est profondément sympathique, profondément empathique, parce que c'est vrai qu'ils se mettent à poil et que, franchement, c'est déjà courageux, hein. Je veux dire, c'est pas,
hein. En même temps, c'est pas non plus, vous avez l'air de dire que...
Non, mais,
Le Louche les
immerge pour les faire émerger. C'est quand même une bande de losers absolus. Et arriver à rendre intéressants des gens qui n'ont aucun intérêt parce qu'ils ont totalement loupé leur vie et qui sont plus rien. Et on s'y intéresse parce que ils sont tous formidables avec effectivement une petite médaille pour Philippe Catherine qui est dément, qui est absolument formidable.
Il est hors norme.
Hors norme, voilà. Les femmes ne sont pas sacrifiées, ce qui pourrait être le cas parce que ce soit les épouses ou effectivement les petits.
Il y a des fauteuils roulants qui roulent vers dans la piscine.
Ah bah dis donc, oui, vaut mieux lui obéir. Et Marina Foïs et Virginia Efira ne sont pas sacrifiées. Et franchement, voilà, ça devrait être entièrement déprimant et c'est entièrement
revigorant. C'est une soirée où on va parler de deux comédies qui sont plutôt
florissantes,
ce qui est rare dans notre programme.
Attendez, il y a un petit chiffre quand même, c'est que on aime beaucoup ça, mais que le premier week-end, les spectateurs ont beaucoup aimé ça. Premier week-end, 1 115 534 entrées.
Pour le grand bain.
Oui.
En revanche, je dirais un petit mot parce que j'ai reçu beaucoup de courriers. Mais je dirai après, oui. Nicolas. Oui.
Non, mais moi je vais rajouter mon éloge au film. C'est un grand bain qui fait un grand bien parce que je pense qu'il y a un film bienveillant mais qui n'est pas bien pensant. C'est ça déjà, ça fait du bien dans la comédie française. Et c'est un film qui est vraiment généreux et qui déborde d'amour et d'un amour de Lelouch. Moi, ça m'étonne pas tant que ça de Lelouch, qui a été un peu très vite catalogué comme un acteur un peu néo-beauf dans certains cinémas.
Reban quoi.
Voilà, et c'est quelqu'un qui a un vrai amour du cinéma, et ça se retrouve même dans les innombrables citations, les références du film, c'est-à-dire qu'il emprunte à beaucoup de choses au cinéma américain, à une énergie comme ça du feel good movie. Puis il y a un hommage à Flashdance ou à des choses comme ça, mais ce sont des hommages complètement digérés dans ce que vous avez très bien dit. Il l'a intégré à une humeur du moment, à une époque, à une ode, pas une ode à la loose, mais une ode aux gens un peu fracassés.
On va même dire une ode tant qu'on est là.
Une ode, oui, moi je dis, voilà. Voilà.
C'est Jérôme qui te le dit.
Merci beaucoup Jérôme. C'est vraiment un film généreux qui fait du bien et puis faut remarquer aussi qu'il a été cherché preuve de son bon goût en compositeur de la musique le monsieur John Bryan. Absolument. Qui a composé pour Paul Thomas Anderson notamment pour Magnolia. Et voilà, il y a plein comme ça
qui est une BO très années 80
Et avec aussi des tubes des années 80 qui sont pas les plus alors, rares mais ça participe de l'énergie.
Donc ce grand bain du film. C'est vrai que c'est rare de commencer le masque avec autant d'éloges. J'ai quand même reçu beaucoup de mails cette semaine, de plaintes, il faut dire la vérité, de gens qui, dans les régions, ont du mal à voir ce film dans des salles indépendantes. Patrick Gaston, Le Grand Bain, a été empêché de diffusion au cinéma Les 400 coups d'Angers, comme dans d'autres cinémas art et essais de grandes villes. Je fais confiance au masque et la plume pour alerter sur ces abus de diffusion et la fragilité des salles qui toute l'année font vivre un cinéma exigeant et à qui on empêche de programmer une comédie populaire de qualité. Ou Sylvain Pichon qui travaille au Méliès de Saint-Étienne. Les salles indépendantes des grandes villes françaises se sont en effet vues refuser ce film tant attendu par son distributeur Studio Canal qui a préféré en donner l'exclusivité sur les grandes villes au multiplex et aux salles de circuit. À Saint-Étienne, nous aurions adoré partager l'enthousiasme collectif de cette comédie populaire de qualité que nenni, Studio Canal en a décidé autrement. Je ne pouvais pas ne pas... et j'en ai reçu d'autres. C'était un choix que je regrette pour un film aussi... je dirais euphorisant et qui rassemble si bien les spectateurs, oui.
Une petite précision, on parlait de The Full Monty, mais ce qui est intéressant, c'est qu'un autre film autour du même sujet a été tourné en Angleterre et qui est sorti cet été et qui a pas du tout marché, qui s'appelle Swimming with Men. Et qui est aussi inspiré d'un documentaire suédois qui a été tourné il y a quelques années. Et c'est intéressant de voir, voilà, que c'est pas forcément les Anglais qui ont le savoir-faire du film de movie.
Grand bas dans le public, le micro vient vers vous.
Oui, très rapidement. Bonsoir madame, bonsoir messieurs. Je crois que c'est un bon film et les personnages féminins sont très bien mis en relief. Effectivement, vous avez cité la Becky, Virginie Fira, pardon. Mais je pense à Mélanie Doutet et à Marina Foïs. Il y a un excellent dialogue dans un supermarché qui vaut le détour, ne serait-ce que pour cette scène. Allez voir ce film, effectivement. Et si je puis me permettre un tout petit conseil, c'était aussi un film sur l'esprit d'équipe. Et je me permettrais de suggérer à l'entraîneur d'une grande équipe de foot qui va aller jouer à Naples dans quelques jours, qu'une équipe de foot, ce n'est pas l'addition de 11 vedettes, mais c'est 11 gars qui mouillent le maillot les uns pour les autres.
Très bien.
Et moi, 11, je vais... 11 joueurs qui jouent chacun pour soi.
Merci voilà. pour J'ai votre dit. Intervention. Et moi, je vais rebaptiser cette émission Le Muscle et la Palme. Allez, une autre comédie française qui était présentée, elle, à la quinzaine des réalisateurs, c'est En Liberté, le 10e film de Pierre Salvadori qui fait la une, ce film de ta revue, Michel, positif, avec un beau et gros dossier, avec Adèle Haenel, Pio Marmaille, Vincent Elbaz, Audrey Tautou. Le film s'ouvre et se termine, mais chute, on va pas dire davantage, par l'intervention musclée, quand je dis musclée, c'est peu de le dire, d'un super flic niçois dans une piole de narcotrafiquants. C'est le capitaine Santi, Vincent Elbaz, tombé dans l'exercice de sa fonction, et aussitôt enterré en héros, sa veuve, c'est Yvonne, c'est donc Adèle Haenel, qui est inspectrice de police, et leur jeune fils lui voue un culte quasi religieux. Seulement voilà, elle va découvrir que son mari était en fait ripoux, et elle va donc s'employer à tenter de réparer les torts qu'il a commis. Elle va alors s'allier avec Antoine, c'est Pio Marmaille, excellentissime Pio Marmaille, marié ici avec Audrey Tautou, très gentille et courageuse, hein, qui a été injustement incarcéré par le capitaine Santi pour avoir braqué une bijouterie. Et quand il sort, ben Antoine, c'est une bombe explosive qui a la fâcheuse habitude, il fait exactement comme Nicolas Chalère dans le que j'ai vu faire, il mord les oreilles, il se jette sur les gens, il leur bouffe les oreilles. Et ensemble, donc, la fliquesse et le prisonnier vont semer le chaos. Alors c'est... Voilà encore un film bourré de références, de parodies, souvent burlesques. C'est un faux polar. Alors lui aussi, qu'on aurait pu appeler au sens propre les masques et les plumes, je trouve. Nicolas ?
J'ai revu le film parce que c'est vrai qu'il y a eu après Cannes, il y a eu un tel buzz que j'ai été, moi, étant vraiment très, très adepte de Salvadori, j'ai été un petit peu déçu parce que le buzz était un peu disproportionné. Je comprends après pourquoi aussi les auditeurs parfois sont un peu déçus parce qu'on en fait trop sur les films. Mais en le revoyant, effectivement, c'est un film c'est du très bon Salvadori. Salvadori, il aime beaucoup filmer, les gens qui se font du mal en voulant faire le bien et qui font du bien en faisant mal. C'est assez marrant parce que il y a beaucoup de gags dans le film qui tournent autour du sadomasochisme.
Il y a du sadomasochisme.
Voilà. Et c'est moi ce qui me fait le plus rire dans le film.
Singulière.
Et, voilà, et là, on sent qu'il cherche à avancer dans son cinéma. Il est dans un humour, j'allais dire, plus. Il y a le côté thriller du film. Moi, c'est pas ce que je préfère. Je trouve que le running gag de Vincent Elbaz, de ce personnage, le côté le magnifique où on réinvente sans cesse la fiction.
Pour l'enfant.
Pour l'enfant, pour raconter à son enfant ce qu'en fait était réalité son père, c'est-à-dire un pourri et pas du tout le flic héroïque comme il croyait qu'il était. Je trouve pas que ce soit le plus réussi de toute la dimension film d'action. Mais il y a toujours chez Salvadori cette inventivité, l'idée de que tout tourne autour du mensonge. J'avais une très belle phrase dans son film précédent qui disait les mensonges des gens qui nous aiment sont les plus belles déclarations d'amour, et on pourrait l'appliquer presque à tous ses films. Et là je trouve que Adèle Haenel a rarement été aussi charmante et désirable, que Pio Marmaille est formidable. Juste un petit défaut, parfois on comprend pas toujours très bien ce qu'il dit, et ça je pense c'est un vrai problème de prise de son. Et il y a une inventivité
pourtant,
constante.
Pourtant il parle moins vite que toi, hein.
Et pourtant il parle moins vite que moi.
Daniel.
Donc voilà, c'est une très belle surprise.
Ah oui, moi, j'ai effectivement un grand, grand faible pour Salvadori, qui fait des comédies, mais qui ont toujours un fond de mélancolie extraordinaire, par exemple.
Le plus mélancolique, c'était Dans la cour, je trouve.
Ah, Dans la cour, avec une Catherine Deneuve,
oui.
inouïe, en dame
c'était
qui
très émouvant,
la tâche. Voilà. Et il y avait déjà Pio Marmaille, d'ailleurs, dans la cour, qui collectionnait les bicyclettes, ne me demandez pas pourquoi. Mais bon, et donc, effectivement, En Liberté, où la presse est unanime, comme on dit, et dit des rires en cascade, mon Dieu que c'est drôle. Moi, je trouve que oui, il y a des choses drôles, mais que c'est la profondeur du film, moi, qui
absolument,
m'a touchée.
C'est plus...
Parce que ce film, c'est retrouver sa vie quand on vous l'a piqué, c'est savoir qui on aime, c'est savoir qui on est, et je veux dire, ça pose des questions extraordinairement touchantes et profondes, avec effectivement...
Que Marmaille joue très très bien.
Alors bon, c'est un néopolar en effet, avec les obligations du genre, mais un peu détourné. Et moi, j'aime beaucoup ces scènes de braquage à répétition pour endormir un petit garçon. Je trouve que, effectivement, le contraste...
Oui, on le conseille pas forcément.
Le contraste est formidable. Non, non. Et Adèle Haenel, dont je ne trouvais pas qu'elle était sublimement, disons, nuancée, et là, magnifique, magnifique.
Éric.
Oui, c'est bien, mais enfin, c'est pas le chef-d'œuvre dont on parle depuis Cannes. Les gens vont être très déçus, hein, quand même.
Non, pas du tout.
Salvadori a fait des films mieux que celui-là, et Le Grand Bain est beaucoup plus réussi, à mon avis. C'est bien, on rigole pas mal. C'est assez, un peu trop filmé les doigts dans la prise, j'ai trouvé. C'est fatigant. En plus, le coup du running gag de l'histoire qu'on revoit 5 ou 6 fois tout au long du film, c'est fatigant. Ça a presque un côté moqui par instant. Ça bascule un peu dans le Chabrol. Et à un moment donné, c'est presque du Taxi 4, hein. L'inauguration de la statue, c'est limite.
C'est cool, hein. Il y a toujours une ingratitude dans la direction artistique chez Salvadori.
Et l'image n'est pas très, très belle.
C'est l'éternel problème.
Un peu sale, mais il y a plein de trouvailles. Là, quand Pio Marmaille sort de prison et retourne chez lui, comme sa femme, évidemment, ne s'y attendait pas, elle trouve qu'ils ont raté la scène et elle le fait revenir comme si c'était du cinéma pour que ce soit plus émouvant, plus beau. Ça, c'est assez intelligent. Moi, je n'ai pas du tout aimé tout ce qui est dans l'espèce d'appartement SM. J'ai trouvé ça ridicule.
Mais t'es pas très SM, toi.
De moins en moins.
Il en est revenu.
Non, Marmaille est très marrant. Adèle Haenel se révèle une actrice comique presque à l'américaine, ce qu'on ne soupçonnait pas. Mais le film a une tendance un peu à pédaler dans le vide comme un hamster dans sa roue.
Michel.
Oui, alors moi, je n'ai pas du tout l'avis d'Éric. Je pense que, d'abord, Salvadori est le plus grand auteur aujourd'hui de comédie en France. Ça fait 25 ans, 10 films. Depuis Comme elle respire,
Les apprentis,
ses premiers films. Depuis que Deville et Rapneau continuent, mais enfin, c'est une autre génération. Depuis Deville et Rapneau, c'est vraiment un grand metteur en scène qui a une œuvre conséquente. Et je le place au-dessus de, même si j'aime beaucoup le film dont on vient de parler, Le Grand Bain. Je le place au-dessus. Pourquoi ? Parce que ce qu'il entreprend est plus original et plus difficile encore à faire. C'est-à-dire la greffe d'un polar et d'un burlesque. C'est-à-dire qu'on est dans la grande tradition du burlesque américain, les Blake Edwards et autres, qu'il réussit. Vous savez que Billy Wilder disait toujours, quand il commençait à tourner une scène, qu'est-ce qu'aurait fait Lubitsch ? Et on a l'impression que Salvadori se dit, qu'est-ce qu'aurait fait Wilder ? C'est-à-dire qu'il se met très haut et il réussit parfaitement. C'est-à-dire ce film, comme tous ces autres films, ce sont des gens qui sont empêchés, des gens qui sont un peu abîmés par la vie, avec un personnage qui essaye d'aider, de soutenir l'autre. Donc il y a un fond très profond, et en même temps, il y a un jaillissement, un rythme absolument incroyable, et qui fait d'ailleurs que le titre En liberté, c'est exactement ce qu'est le film.
En liberté,
c'est un film d'une liberté absolue, aussi bien du scénario et de la mise en scène.
C'est les films de Pierre Salvadori. Je signale que pareil, aux éditions Playlist Society, Salvadori, le prix de la comédie, un essai et des entretiens avec le cinéaste par Nicolas Télope, Quentin Mével et Dominique Toula. Des réactions sur ce film ? Non. On passe dans ce cas-là à Silvio et les autres, le long portrait, 2h40.
2h38.
Oui, c'est pareil, de Silvio Berlusconi par Paolo Sorrentino avec Tony Servillo dans le rôle titre. Servillo qui avait été, il y a 10 ans, un autre politique italien, Andreotti, dans un autre film de Sorrentino que j'avais, pour ma part, beaucoup aimé, qui s'appelait Il Divo, et dans un style très kitsch, très clinquant, qui ressemble évidemment au personnage. Sorrentino raconte donc la vie, les frasques du Cavaliere, dont l'ascension médiatique est rythmée par les jeux de télé débiles et par des fêtes, comme les fréquente souvent Eric, pour vieux libidineux, avec bimbo cocaïné en bikini. C'est le portrait d'un bouffon mégalo, mais aussi d'un populiste très populaire. Évidemment, ceux qui s'attendent à la charge politique, souvenez-vous du Caïman de Moretti, qui était un film assez exemplaire, seront un peu déçus. Ceux qui veulent suivre le parcours grotesque de ce personnage, iront voir ce film, qui était d'abord, il faut le préciser, destiné à la télé. C'était un produit télé avant de devenir un film cinéma. Alors toi, Eric, t'as aimé ça ?
Oui, oui, moi j'aime beaucoup Sorrentino de toute façon.
Non, mais ça.
Mais j'aimerais même voir la version de 5 heures en 2 parties.
Non. Mais non.
Parce que là, il y a un petit problème d'équilibre. On abandonne le héros de la première partie, mais sinon c'est un film très très beau et très
beau.
C'est vachement beau. Je sais pas comment il fait. Il procède par tableau toujours, Sorrentino. Il arrive même à rendre fascinante la laideur et la vulgarité.
Ce qu'on
voit dans ce film, c'est que ça y est, la laideur a gagné. La laideur, elle est à la télévision, elle est dans les rues, et puis elle est même dans les âmes des gens. maintenant. Et ça, il le montre très très bien. Et on voit tout un tas de bimbos, là, ce qui a beaucoup excité Jérôme. Du coup, il a attrapé la grippe. Et il renifle tout le temps, comme le trafiquant de cocaïne. Non, mais le film est à des moments, rien que la première séquence où on voit un mouton entrer dans la villa de Sardaigne, il y a une émission complètement stupide, un quiz télévisé, et la climatisation devient folle, et le mouton meurt. Mais c'est une idée géniale. Quand il drague une gamine de 20 ans à une de ses soirées, il est ridicule avec son sourire figé, son visage complètement refait, comme Berlin-Est maintenant. Elle lui dit non, ne le prenez pas mal, mais vous avez la laine de mon grand-père. Et il y a un tas de trucs comme ça. Il y a des filles sublimes, il y a des scènes où on le voit un soir, parce que ce qu'il a aimé le plus dans sa vie, sans doute, c'était de vendre des appartements d'être promoteur immobilier. Et il cherche le nom au hasard d'une dame, il l'appelle à 10h du soir, il réussit à lui vendre un appartement dont elle n'a pas besoin, et on le voit content comme tout, et il y a presque un côté, bon, j'exagère un peu, mais shakespearien, ce roi lire un peu, abandonné de tous, ridicule, que sa femme va plaquer, le personnage de la femme dépressive est magnifique. Non, c'est un très très beau film, et un petit peu bancal, mais qui est tellement convaincant que... On attend le même film sur Hollande en France.
Michel te regarde comme si étais un alien.
Je trouve qu'il n'y a vraiment aucun rapport avec Hollande. C'est un film important parce qu'il parle de ce qui menace l'humanité aujourd'hui, c'est-à-dire les battleurs devant lesquels les foules sont en extase. Ça vient de se passer au Brésil, c'est Trump, c'est Orban en Hongrie, c'est Salvini. Non, mais c'est très important parce que le film ne montre pas seulement que ces gens-là sont... grotesque, effrayant, de vulgarité, c'est qu'ils reflètent aussi leur pays. C'est-à-dire que faut pas arrêter de dire que ce sont des gens qui sont corrompus, etc. Alors que le bon peuple veut cela. Et toujours un dictateur.
Mais tu trouves que le film le démontre bien,
ah
ça?
Ah oui, ça montre, mais ça commence par la première heure qui est très médiocre. Parce que la première heure est, à mon avis, d'un ennui insupportable. Oui, mais je suis pas en train de défendre le film dans sa totalité. Je dis que la première heure, qui est effectivement assommante, ça nous montre une Italie vulgaire. Les gens n'ont que ce qu'ils veulent. Il faut cesser de dispenser le peuple de ses responsabilités. Ils élisent les gens qu'ils veulent élire. Pourquoi M. Berlusconi a eu un tel succès? C'est parce qu'il a été soutenu par des programmes idiots de télé devant lesquels les gens se vautraient. Pourquoi les Brésiliens élisent un type qui dit « je préfère un fils mort qu'un fils gay » C'est tout de même effrayant. Ils ont tous entendu cette phrase. Ils préfèrent un fils mort à un fils gay. Quand on en est arrivé là, il faut s'interroger sur ce qui arrive à un peuple. Et c'est ce que le film montre. Et je pense que je suis d'accord avec Eric qu'il a un talent de satiriste absolument formidable. Et évidemment, Servillo est absolument...
On a du mal à... Moi, j'essaie de me souvenir du Andréotti qu'il était, et en voyant ce visage qu'il s'est fait, proche du mimétisme absolu,
c'est assez... une prodigieuse interprétation. C'est et c'est vrai que la deuxième partie a des morceaux de bravoure.
Je trouve que mes camarades surestiment un tout petit peu ce film-là. Autant je trouve Paolo Sorrentino génial dans La Grande Bellezza, parce que effectivement il y a ce sous-texte de pourriture et de beauté, et que là j'étais totalement en adhésion. Que Tony Servillo est un pur génie et l'acteur de référence et d'excellence de Sorrentino, mais là franchement. Bon, d'accord, il y a les filles, et puis il y a les piscines, et puis il y a les maisons très chères, et puis...
Mais ça, c'est très mauvais, je suis d'accord avec toi.
Oui, et puis il y a les sénateurs corrompus, et puis, ah bah oui, et alors bon, et c'est interminable, et puis... je ne vois pas ce que j'aimerais y voir, c'est-à-dire la critique politique.
Oui, parce que c'est quand même très marqué année Berlusconi. Voilà. Je comprends ce que tu dis, Michel.
Voilà, mais j'aimerais beaucoup y voir
le
ça.
Le danger, il était peu.
Et vraiment,
ailleurs,
je me réjouis que vous ayez vu ça. Et finalement, moi, ce qui m'a intéressé et un peu choqué, c'est que ça finit par être un portrait curieusement attendri pour le personnage. Il était entouré par des sales types, oh là 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 là, mais lui, malgré tout, quand même, et ça, bon.
Nicolas ?
Non, moi je trouve le film, je trouve que Sorrentino est un type très intéressant, mais qui est très inégal. Et
je m'attendais pas à ce plutôt bon accueil au masque.
Mais oui,
en lisant la presse de cette semaine, qui était très sévère, il faut dire la vérité.
Parce qu'il n'est pas aimé de la presse.
Pour ce film.
Il n'est pas aimé, mais parce qu'il mélange des choses très, très, très presque contradictoires. C'est-à-dire qu'il a, il a un style très clippé, quelque chose de, comme ça, d'assez, de vulgaire et de moderne, parce que c'est un esthète de la vacuité actuelle, quoi, comme ça. Et en même temps, il y a quelque chose, dans ces films, quand on prend le temps de passer quelques moments qui peuvent être un peu épuisants ou répétitifs, et en même temps toujours avec des vraies idées de mise en scène, il y a une tristesse qui se crée, une mélancolie qui se développe dans le film. Il parlait de Shakespeare, Eric parlait de Shakespeare, moi je pense presque il y a un côté Gatsby bouffon chez le personnage.
Et bouffi.
Et pour moi, il y a vraiment une dimension d'opéra bouffon. Des tableaux qui donnent une idée, et qui ne sont pas effectivement d'une critique directe de la politique de Berlusconi, mais qui réinventent à travers des moments comme ça. Par exemple, Eric parlait de la rencontre avec cette jeune femme, où c'est vraiment, où là il y a un dialogue sur la vieillesse qui est finalement assez touchant, et il lui dit: à ton âge la joie devrait être un devoir, et elle lui répond: à mon âge la joie n'est qu'un désir. Il y a comme ça des inspirations presque littéraires, et je trouve que c'est un film beaucoup plus pertinent sur la manière dont Berlusconi a fait de l'Italie un Luna Park d'une vulgarité assez assez délirante.
Silvio et les autres, c'est Paolo Sorrentino. Autre biopic, celui de Freddie Mercury, l'extravagant chanteur de Queen, mort à Londres, je le rappelle, en 91, à 45 ans du sida. C'est Bohemian Rhapsody de Bryan Singer, le réalisateur de X-Men, avec Rami Malek, à qui on a offert, comme à Eric, un nouveau dentier dans le rôle-titre. Objet bizarre, pour ne pas dire bizarroïde, si on sait que au début, Mercury devait être interprété par Sacha Baron Cohen, et qu'entre-temps, Bryan Singer a été renvoyé après avoir tourné l'équivalent de 80-85% du film, pour être remplacé par Dexter Fletcher, qui lui n'est même pas crédité au générique. Vous me suivez pas, mais c'est pas grave. C'est quand même bizarre. Quant au film, il suit l'histoire du groupe jusqu'au fameux et phénoménal concert de Wembley en 85, alors que Mercury se savait malade du sida. C'est quasiment un court-métrage, puisqu'il fait 2h15. Nicolas?
Alors, moi, je m'attendais à une catastrophe, vu la genèse très chaotique du film. Et j'avoue que je trouve que c'est plutôt du travail bien fait. Alors, si on veut aller voir un film sur la tragédie de la vie de Mercury, sur ses grandes fêtes orgiaques, donc il était le spécialiste avec des vases pleins de coke et des nains qui traînent partout. Enfin, il y a un moment, il dit dans le film, c'est assez drôle, c'est résumé en une phrase, il dit: trouve-moi tous les mauvais fruits qui sont tombés de l'arbre et tu les invites à la fête. Qu'il avait, Mercury, cet amour des fêtes un peu orgiaques. Voilà. Si on veut voir ça, c'est sûr, faut pas aller voir ce film. C'est un biopic à la manière d'un feel good movie, encore on y revient, mais qui met en avant vraiment le, à la fois la création des chansons du groupe, la puissance scénique.
On n'apprend pas grand-chose.
On n'apprend pas grand-chose, mais c'est assez bien fait, parce que c'est écrit par un scénariste qui est Peter Morgan, qui est le scénariste de The Queen, et c'est plutôt bien amené. Et surtout, ça ne fait pas du tout l'impasse, comme il a été reproché avant que le film sorte. On disait que ça allait faire l'impasse sur le sida, l'homosexualité de Mercury. Pas du tout. Ça l'approche avec une forme de pudeur, et je trouve parfois une pudeur assez bienvenue, notamment parler du sida à travers les paroles des chansons qu'on découvre être à propos, en tout cas imagés, et on découvre ces chansons parler en fait de la maladie. Voilà, je trouve que c'est un public plutôt bien écrit. C'est pas un grand film, bien sûr, mais c'est un public plutôt bien écrit, et qui vraiment est le dernier quart d'heure totalement consacré au concert, qui est une reconstitution de concert de Wembley, est vraiment très réussi. Mais voilà,
Eric,
l'idée de reproduire en moins bien un concert qui a existé, dont il y a des traces partout,
des archives partout.
Ah, mais ça n'en finit pas. On a droit aux 20 minutes qu'ils ont chanté. Oui, mais c'est long, hein, surtout que c'est, il y a plus de jukebox dans les cafés. Maintenant, on les retrouve dans des films comme ça, tous les vieux tubes. Moi, je n'ai jamais eu un disque de Queen, et j'ai découvert qu'il avait beaucoup trop de dents dans la bouche. on nous apprend ça au début. Il a 4 incisives en trop. Alors du coup, on passe son temps à regarder sa mâchoire et on regarde pas du tout la façon dont il danse. Mais le film est quand même d'une banalité, d'une platitude.
Oui.
C'est pas drôle du tout, c'est pas intéressant. Et puis il y a des choses.
À part les costumes.
Oui, bon, c'est la moindre des choses. Non, mais il y a des trucs qu'on n'aurait plus le droit de faire. Là, il y a une conférence de presse où visiblement il est défoncé. Alors il voit tous les visages déformés. Ça devrait être interdit. À un moment donné, il s'engueule sous la pluie avec son manager. Ça n'en finit pas non plus. Mais c'est un roman photo à l'eau de rose
avec sa femme.
Non, c'est le manager sous la pluie.
Mais ça, il est intéressant, le rapport avec le manager.
Oui,
intéressant,
alors,
la culpabilité.
Daniel.
are the champions.
Ah merde.
Bah, voilà, je pense qu'il faut avoir été fan de Queen pour aimer ce film. Et moi, j'étais fan de Queen et je trouve bon, bien sûr, ah, il est bien, c'est, le film est bien rangé, bien bon. Mais quand même, ce garçon qui a une prothèse dentaire vraiment encombrante, Monsieur Rami Malek, très encombrante.
Il avait ce que ma grand-mère appelait de l'avance au gâteau.
Ah oui, oui, carrément. Une grande avance au gâteau. Bon, mais je trouve que
quel gâteau.
Non, je trouve qu'en effet, le portrait est fidèle, qu'on n'élude rien, que les relations avec ses amoureux sont tendres, sont humaines, qu'on évite les scènes dérangeantes et qu'on voit ce qu'a été ce groupe. Bon, voilà, c'est un biopic très classique, avec un acteur remarquable, et voilà, mais simplement, il faut aimer Queen, comme monsieur...
Qui s'ajoute à tous les,
voilà, mais
tous
comme...
les biopics musicaux.
Voilà, mais comme monsieur Neuf n'aimait pas Queen, il n'aime pas le film, c'est normal.
Ça met en avant la musique,
ah, oui,
vraiment.
Ah oui, oui,
c'est bien,
ah,
moi, alors, attends.
Oui, non, mais la création des morceaux, oui, comme en studio, comment Bohemian Rhapsody a été créé en studio, non, mais il y a des vraies infos.
Il y a des choses tellement plus intéressantes dont on peut parler que, je dirais simplement, très brièvement, c'est que le contrat est rempli pour les amateurs de ce genre de biopic rock. Et je suis pas d'accord, le concert final est tout de même très bien mis en scène, mais c'est simplement le sens des Américains pour le spectacle. C'est-à-dire qu'ils ont un sens formidable, même des metteurs en scène secondaires comme Bryan Singer, à part Usual Suspects, il a rien laissé d'important. Néanmoins, ils savent faire du spectacle, aussi bien sur scène qu'il suffit de voir la soirée des Oscars. Ils ont un sens du spectacle, et ce film restitue bien ça. Mais c'est tout. C'est de vrai que c'est des clichés, c'est des choses qu'on a déjà vues. J'aime bien l'interprétation de Rami Malek, qui est un Égyptien qui joue un Pakistanais, mais il le fait avec beaucoup de conviction. Mais voilà, il n'y a pas grand-chose à en dire. Il n'y a pas grand-chose à en dire.
Je vais attendre à tout, c'est pas ça.
Il ressemble plus à Mick Jagger qu'à Freddie Mercury dans les premières années.
Bon, c'est Bohemian Rhapsody de Bryan Singer, puisque
plus ou moins.
Il signe. Oui.
Parce qu'il n'a rien compris. Ça, c'est le règlement de la guilde. Quand on a fait plus de 50% d'un film, on est le seul crédité.
Ah bon ?
Oui, c'est le règlement. Plus de 50%.
Le règlement, monsieur.
Je ne savais pas. Bohemian Rhapsody, est-ce qu'il y a des fans de Queen dans le public? Non. Cold War, c'est le film dans un magnifique noir et blanc qui a obtenu à Cannes le prix de la mise en scène. Il est signé Pavel Polikowski, le réalisateur polonais d'un film aussi beau, mais pour moi beaucoup plus sobre et donc plus poignant, qui était Ida. Et dans Cold War, où il se... D'après ce que j'ai compris, ce serait inspiré de l'histoire de ses propres parents. Polikowski donc raconte l'impossible amour entre une chanteuse et un pianiste polonais, Zula, qui est jouée par Joanna Kulig, qui est une vraie révélation. Victor, c'est Thomas Kott, et ça se passe dans les années 50-60, évidemment en pleine guerre froide. Et je raconte le début juste, mais Victor profite d'un déplacement du groupe folklorique à Berlin-Est, on y revient, pour passer à l'Ouest et rejoindre Paris. Mais Zula a refusé de le suivre. Elle épousera plus tard un Italien afin de quitter la Pologne et de rejoindre Victor à Paris, où elle aura du mal à se faire à la bohème jazz, où on croise d'ailleurs Jeanne Balibar, Cédric Kahn, en pleine forme.
Et puis elle était déjà là.
Et elle repartira pour la Pologne. Du point de vue esthétique, c'est incontestablement une pure œuvre d'art. Est-ce pour autant un grand film ? Je dois avouer que je me pose quand même la question, Michel.
Moi, je trouve que c'est un très beau film, et surtout, j'ai vu deux fois, je l'avais vu avant Cannes, et je l'ai vu la semaine dernière, et j'ai encore préféré la deuxième fois, d'abord parce que j'étais sidéré par le fait que ce film est tellement visuel. C'est-à-dire que c'est un film où pratiquement oui. tout
mais
est exprimé.
Mais je suis d'accord.
Mais oui, mais tellement exprimé par les images, qui est de plus en plus rare au cinéma.
Je suis d'accord.
Et ça, c'est vraiment l'école de l'Est, c'est le grand cinéma hongrois, le grand cinéma polonais, où il y a une confiance dans l'image qui est totale. Et ce film est plein de richesses visuelles. Chaque plan est travaillé comme un orfèvre. D'autre part, c'est une histoire très belle, puisque effectivement, là aussi, il y a le rôle de l'histoire avec un grand H, c'est-à-dire l'attitude de cette fille qui est très tolérante, finalement, à l'égard du régime soviétique. Lui, il s'adapte assez bien à la vie en France, alors qu'il n'est pas très bien traité. Donc ce sont des gens qui essayent de surnager. C'est, paraît-il, l'histoire de ses propres parents, il a raconté, c'est-à-dire des gens qui ne peuvent pas vivre ensemble et qui ne peuvent pas vivre sans l'un l'autre en même temps. Et j'ai trouvé le film vraiment...
Mais je suis d'accord avec toi. Encore une fois, je Ida, je trouvais que l'esthétique était une pureté absolue et était parfaitement conforme au contenu du film. Là, je me pose plus de questions sur l'histoire. Éric.
C'est magnifique, c'est un envoûtement ce film. Dès que ça commence, ce noir et blanc, ces chanteurs folkloriques au fin fond de la Pologne, et puis cette fille blonde qui surgit au
milieu.
Elle
est incroyable, hein.
Ah, elle est incroyable, avec son physique de viking, elle aurait pu jouer dans des Bergman en noir et blanc. Elle rafle la mise tout de suite. On comprend que le héros en tombe amoureux aussitôt. Et c'est une fille très bizarre, hein, parce qu'elle sait ce qu'elle veut, elle s'arrange avec le système, elle collabore plus ou moins avec le PC, elle sort de prison, et puis elle le fait tourner en bourrique. Lui, il passe à l'ouest, mais on voit très bien qu'entre eux, c'est pas seulement le rideau de fer qui les sépare, c'est l'incompréhension, c'est les malentendus, c'est l'usure de la vie et des sentiments. Et c'est un film très Fitzgeraldien, moi j'ai trouvé. C'est Scott et Zelda. Il y a un romanesque et une façon de... Il procède par ellipse pour montrer le temps qui passe. Ça dure 1h28 et c'est toute une vie qui est résumée là-dedans. Et c'est bouleversant. Elle, l'actrice, à un moment donné, quand elle arrive à Paris, elle danse ivre dans une boîte de nuit sur Rock Around the Clock. La séquence est prodigieuse. Il y a une tristesse, une mélancolie, ce qui est quand même au cinéma souvent la farine du boulanger, la mélancolie. Et là, on a envie de dire, ça se passe n'importe où, c'est en Pologne.
Daniel.
Ah ben, j'avais été totalement bouleversé par Ida, ouais. Je veux dire, les images d'Ida me restent dans le cœur et dans la tête. Bon, donc je suis partie là sur Cold War, je trouve que le début est éblouissant, ouais. C'est-à-dire le recrutement de cette chorale pour vraiment magnifier le régime, tout ça, et une énergie, et effectivement, tout à coup, cette beauté blonde qui émerge. Ben, vraiment, la première partie est géniale. Après, je trouvais que Paris, Berlin, c'était quand même un peu poussif et que pendant que c'est non, ni avec toi, ni sans toi.
Il y a même du Zagreb.
Voilà, bon. Alors, ni avec toi, ni sans toi. Bon, on s'y attache. Ils sont beaux comme des dieux tous les deux. On aimerait bien que ça marche, mais on sait que ça va pas marcher. Puis peut-être ça va marcher. Ben non, ça marche pas.
Ça marche pas.
Bon. Et effectivement, j'avais la nostalgie du début, de l'énergie du début du film. Et bon, voilà. Le noir et blanc.
C'est vrai que le prix, pour le coup, de la mise en scène correspond à ce qu'est.
Voilà.
Exactement.
Voilà. La mise en scène, moi, je trouve que le noir et blanc est formidable.
Nicolas.
Le noir et blanc est très très beau, mais en même temps, mais la mise en scène, pour moi, elle fiche tout, elle esthétise tout, elle épouse pas du tout le mouvement des personnages. Au bout d'un moment, je suis d'accord avec Daniel. Au bout d'un moment, je trouve le début très intéressant, puis au bout d'un moment, je ne comprends pas les motivations de ces personnages, de cette romance qui m'ennuie et que je trouve plaquée. J'ai vraiment un vrai problème avec ce film que je trouve, puis ça se finit dans une, on va pas le révéler la fin, mais dans une espèce de romantisme, de pessimisme total.
Ah bah là, déjà,
total.
Tu révèles un peu.
Oui, voilà. Et ce romantisme est tellement factice pour moi que je ne vois qu'une forme de misanthropie et un regard vraiment que je trouve, alors qu'en plus, l'actrice est effectivement formidable. Lui est beaucoup plus palo, quoi.
Eh bien, c'est Cold War de Pavel Polikowski. Et on termine rapidement avec La tendre indifférence du monde. Très beau titre. Le sixième film du Kazakh Adiklan Yerzhanov, qui lui était présenté à Cannes à un certain regard. Ça se passe au Kazakhstan, aux confins de la Russie et de la Chine, dans des espaces immenses et vierges. Alors là aussi, magnifiquement filmé. Et puis, il y a une jeune femme ravissante, Saltana, qui lit L'étranger de Camus en collection blanche, s'il vous plaît, qui part dans une robe rouge pour la plus grande ville du pays, que connaît bien Eric, qui est Almaty, où elle doit se vendre à un homme très riche pour éponger les dettes de sa famille. Elle est accompagnée par un chevalier servant, un protecteur très costaud, un peu simplet, qui aime la peinture. Et ensemble, ils vont découvrir un monde où la violence, le dispute à la corruption, une sorte de Bonnie and Clyde du Grand Est, mais assez francophile. On cite, je le disais, Camus, mais aussi le douanier Rousseau, Jean-Paul Belmondo.
Le rouge et le noir.
Le rouge et le noir, d'un certain Stendhal. Daniel ?
Oui.
Ça veut dire quoi?
Ça veut dire quoi? Que, effectivement, esthétiquement, c'est une splendeur. Je veux dire, l'arrivée de cette femme avec son ombrelle rouge et sa robe rouge, c'est beau. Et effectivement, le contraste entre, moi, j'appellerai pas ça, bon, c'est la citation de Camus, bien sûr, la tendre indifférence du monde, mais c'est l'horrible déliquescence du monde. Enfin, c'est sans espoir. Effectivement, elle va être vendue pour éponger les dettes. Et il y a une bande de sales types qui n'arrêtent pas de se casser la gueule.
À la fin, c'est très méchant. Hein.
Très, très, très méchant. Il y a des digressions assez plaisantes sur l'art moderne. Enfin, je sais pas, je me suis assez beaucoup ennuyée.
Nicolas.
C'est un étrange film qui révèle un vrai formalisme, parce que chaque plan est sublime et a du sens.
C'est pas un hasard si un des personnages est peintre, d'ailleurs, qui rêve d'exposer à Paris.
Après, il y a deux films qui se battent. Il y a à la fois un film burlesque à la Kitano, comme ça, un burlesque à froid que je trouve assez réussi. Et à côté de ça, des envolées très explicatives avec des monologues très démonstratifs sur effectivement la corruption, la beauté de l'amour, que je trouve pour le coup très plaqué et assez lourd. Donc je suis très partagé par ce film qui révèle un vrai talent de filmeur, et après sur ce qu'il a raconté, j'attends de voir la suite.
Michel.
Mais moi, je suis pas vraiment convaincu. C'est-à-dire, effectivement, il y a un grand esthétisme, mais peut-être pas une grande esthétique. C'est esthétisant. Et en particulier, une scène qui m'a frappé, c'est-à-dire, c'est très dramatique à l'arrière-plan, et puis, c'est filmé à travers un aquarium où il y a des poissons rouges, et la caméra est devant l'aquarium. Hein, c'est-à-dire, ça n'a aucun sens. Il n'y a aucune raison que la caméra.
Mais ce n'est pas le grand bain, il faut dire la vérité.
Je pense à Billy Wilder qui disait, je ne mets jamais la caméra dans la cheminée, sauf si je filme l'histoire du Père Noël. Et effectivement, là, on se dit, mais pourquoi la caméra est là? Et du coup, j'ai un soupçon que cet homme essaye trop de faire de la belle image. Mais cela dit,
vous êtes dur avec le cinéma kazakh, Eric?
Ben oui, parce qu'il faudrait replacer ce film dans l'histoire du cinéma kazakh, mais là, j'ai pas le temps. Mais c'est un drôle de truc, hein. C'est assez
talent,
beau.
Il a du talent.
Moi, il a un sens de l'espace.
Que ce que vous dites, mais
peut-être.
Il y a une poésie.
Ce personnage de fille, toujours habillé en rouge.
Un mélange des genres. Cette fille qui a toujours sa robe rouge parce que c'est censé, j'imagine, garder sa pureté au milieu de ce monde corrompu.
Elle part pour la ville pour se faire.
Se faire marier.
Non, mais il y a quelque chose. C'est pas du tout inintéressant. Je verrai pas ça à longueur de journée. Ça dure une heure et demie, ça va.
Tu vas, j'espère, en rentrant, revisiter un peu ton cinéma kazakh.
Je vais retourner mon cinéma kazakh.
Il faut que les kazakhs tournent, de toute façon.
Non, Michel, non. Heureusement que l'émission se termine.
Oui, oui.
C'est la tendre indifférence du monde. Et c'est signé Adiklan Yerzanov. Allez, on a le temps, tout à fait le temps, de faire des conseils circonstanciés, de films, de DVD, de CD, de restaurant.
Alors moi, j'ai deux conseils. D'abord, un coffret merveilleux de Dino Risi, qui s'appelle la trilogie optimiste de Dino Risi. C'est des films de la fin des années 50, quand Risi est en train de devenir Risi. Ce sont des comédies douces amères où le néo-réalisme se mélange avec un cinéma plus commercial. On l'avait critiqué beaucoup à l'époque. Pauvre mais beau, belle mais pauvre, pauvre millionnaire, avec en particulier Renato Salvatori. C'est des films tournés en décor naturel, d'où le néo-réalisme, mais en même temps, c'est des romances, des histoires de jeunes, etc. Et ça montre une Italie qui se transforme très rapidement, juste avant le grand boom économique. Donc une série, un coffret vraiment formidable chez M6 Vidéo. Et puis, je recommande aussi une magnifique exposition à la Philharmonie qui s'appelle Comédie musicale, qui est une exposition exceptionnelle où il y a sur grand écran des extraits de toutes les grandes comédies musicales et puis un parcours très pédagogique où on montre vraiment aux jeunes l'évolution de la comédie musicale, pas seulement à Hollywood, mais dans le monde, et un catalogue qui paraît chez La Martinière qui accompagne l'exposition. Voilà, donc
et
ça, c'est vraiment
ami,
un rendez-vous formidable.
Michel, tu sais jusqu'à quand elle dure cette
exposition? Ça commence, c'est jusqu'au mois de janvier, au moins
et
jusqu'à fin janvier.
Et donc, ta revue positive, Michel, est consacrée notamment à Salvadori, mais aussi à Polikowski, je le disais, et aussi un compte-rendu intégral de la 75e Mostra de Venise. Éric, le conseil?
On l'appelait Roda, le documentaire de Charlotte Silvera sur Étienne Rodagil, le parolier, entre autres, et surtout de Julien Clerc, qu'elle connaissait, qu'elle a filmé. On le voit longuement parler de politique, de son enfance, de sa femme avec qui il avait vécu 35 ou 36 ans et qui est morte d'un cancer. Il est tout le temps à la clope au bec et un verre à la main. Il se définit comme un poète industriel parce qu'il met la vraie poésie plus haut que les paroles de chansons. Et c'est un film très, très émouvant où on voit une intelligence en marche et un personnage comme il n'en existera plus. Et c'est quand même le type qui a signé une des plus belles phrases de la langue française. Dans ce monde où tous les hommes se croient debout, je suis le seul à me vanter de me traîner à tes genoux. Ben, j'aurais bien aimé trouver ça et j'aurais même aimé le penser.
Mon conseil, c'est pour les Parisiens ou ceux qui prendront le train pour venir. J'adore cette idée. C'est un colloque à la Sorbonne qui aura lieu les 13 et 14 novembre sur les tontons flingueurs.
Ah, génial.
Deux jours entiers sur les tontons flingueurs. Deux jours entiers avec tous les plus grands profs de la Sorbonne.
Ils vont nous le pourrir.
Et vous avez comme thème les paradoxes d'un dialogue culte, l'image dans les tontons flingueurs, métaphore et métonymie, la loi des tontons et la loi des caves, exemple inspirant de pluralisme normatif harmonieux, formidable. Et puis la France des tontons, des vieux Paris. Alors il faut s'inscrire, c'est donc, mais ça vous trouverez ça sur le site du Masque, hein, c'est colloquetonton@gmail.com. C'est donc à la Sorbonne les 13 et 14 novembre, et vous saurez tout évidemment sur ces tontons flingueurs. Daniel.
Eh ben j'ai le même conseil que celui d'Éric. Voilà, c'est, on l'appelait Roda, Roda qui était mon ami.
Que tu as connu.
Que j'ai connu très bien, qui avait écrit, il les avait comptabilisées et elles étaient toutes enregistrées, 747 chansons, qui avaient fait débuter.
Dont celle pour Julien Clerc.
Donc, qui avait fait débuter la cavalerie, l'a emportée, voilà, qui a changé la vie évidemment de Vanessa Paradis avec Joe le Taxi, qui avait une palette absolument inouïe parce qu'il s'adaptait à tous ses interprètes, il a écrit pour Claude François, pour Johnny, pour tout le monde, et c'était un type magnifique, effectivement, qui parlait de l'Espagne, de l'anarchie, qui fumait trop, et ça l'a tué. Et
qui buvait aussi.
Oui, aussi, et c'était un ami.
Merci Daniel. Le conseil de Nicolas.
Alors moi, c'est un documentaire qui est sorti le 31 octobre, qui s'appelle, non pas Le Grand Bain, mais Le Grand Bal.
On peut encore le voir
qui vient de sortir.
Ah, qui vient de sortir,
le 31 octobre, oui.
Ah oui, d'accord.
Le Grand Bal, et en fait, c'est une jeune réalisatrice qui s'appelle Laetitia Carton, qui est allée filmer un grand bal qui se déroule à Génétine, dans l'Allier, tous les ans, pendant une semaine, avec 2000 personnes.
Une semaine de bal.
Voilà, un bal qu'elle a fréquenté quand elle était enfant. Elle est allée donc filmer les participants, et c'est pendant une semaine, 24 heures sur 24, alors il y a des camps, ils campent à côté, et ils passent leur temps à danser, à apprendre à danser, puis le soir à mettre en pratique leur, et c'est un très joli documentaire sur le, encore une fois, sur le collectif, sur le besoin de se rapprocher, et tous les témoignages, qui est assez bouleversant, c'est tous les témoignages des gens qui y participent, qui parlent de danse, qui parlent de mazurka, de valse musette, de passo doble, de bourré, enfin de choses. Tout ça ne parle en fait que d'amour, de rapport au corps et de désir, et c'est vraiment très très beau. Non mais voilà, c'est vraiment très très non, c'est vraiment un beau film.
L'important c'est que ça parle d'amour.
Non, non.
On en a tous besoin.
Non mais ce qui a, voilà, bon, je ne dis rien. On a plus honnête.
C'est Patrick Sébastien.
ça c'est terrible.
Ça moi j'aurais pas apprécié. Hein.
Ça c'est terrible.
Vous réglerez ça après. Hein,
après le grand bain,
à la cuisine. Tous ces conseils, vous les trouvez, même mes tontons flingueurs, sur le site du Masque et de la Plume, franceinter.fr. Merci beaucoup, Daniel Eman, Nicolas Chalère, Michel Simon, Éric Nehoff, pour cette émission qui était, comme chaque semaine, présentée par Jérôme Garcin, avec la collaboration de Lisiane Sélam. Et ce soir, au Charles Trenet, à la technique, et je les remercie, Claude Nior, Nicolas Depagraf, et Samuel Razzano, la réalisation était signée Xavier Pestugia. Vous notez bien, s'il vous plaît, que le prochain enregistrement du Masque, il aura lieu le jeudi 15 novembre, ici même, au studio Charles Trenet de la Maison de la Radio, pour deux émissions, l'une consacrée au livre, l'autre au cinéma. On parle de théâtre dans une semaine. Je vous dis merci et à dimanche prochain sur France Inter, évidemment.